Benjamin Constant, Le Cahier Rouge, chapitre 2. Ce fut à cette époque, 1787, que je fis connaissance avec la première femme d'un esprit supérieur que j'ai connu, et l'une de celles qui en avait le plus que j'aimerais rencontrer. Et se nommait Madame de Charrière. C'était une Hollandaise d'une des premières familles de ce pays, et qui, dans sa jeunesse, avait fait beaucoup de bruit par son esprit et la bizarrerie de son caractère. À 30 ans passés, après beaucoup de passions, dont quelques-unes avaient été assez malheureuses, elle avait épousé, malgré sa famille, le précepteur de ses frères, homme d'esprit, d'un caractère délicat et noble, mais le plus froid et le plus flegmatique que l'on puisse imaginer. Durant les premières années de son mariage, sa femme l'avait beaucoup tourmenté pour lui imprimer un mouvement égal au sien. Et le chagrin de n'y parvenir que par moments avait bien vite détruit le bonheur qu'elle s'était promis dans cette union à quelques égards disproportionnée. Un homme beaucoup plus jeune qu'elle, d'un esprit très médiocre mais d'une belle figure, lui avait inspiré un goût très vif. Oh, je n'ai jamais su tous les détails de cette passion. Mais ce qu'elle m'en a dit, et ce qui m'a été raconté d'ailleurs, a suffi pour m'apprendre qu'elle en avait été fort agitée et fort malheureuse, que le mécontentement de son mari avait troublé l'intérieur de sa vie, et qu'enfin le jeune homme qui en était l'objet, l'ayant abandonné pour une autre femme qu'il a épousée, elle avait passé quelque temps dans le plus affreux désespoir. Ce désespoir a tourné à bien pour sa réputation littéraire, car il lui a inspiré le plus joli des ouvrages qu'elle ait fait. Il est intitulé « Caliste » et fait partie d'un roman qui a été publié sous le titre de « Lettres écrites de Lausanne ». Elle était occupée à faire imprimer ce livre quand je fis connaissance avec elle. Son esprit m'enchanta. Nous passâmes des jours et des nuits à causer ensemble. Elle était très sévère dans ses jugements sur tous ceux qu'elle voyait. Moi, j'étais très moqueur de ma nature. Nous nous convînmes parfaitement. Mais nous nous trouvâmes bientôt l'un avec l'autre des rapports plus intimes et plus essentiels. Madame de Charrière avait une manière si originale et si animée de considérer la vie, un tel mépris pour les préjugés, tant de force dans ses pensées, et une supériorité si vigoureuse et si dédaigneuse sur le commun des hommes, que dans ma disposition à 20 ans, bizarre et dédaigneux que j'étais aussi, sa conversation m'était une jouissance jusqu'alors inconnue. Je m'y livrais avec transport. Son mari, qui était un très honnête homme, et qui avait de l'affection et de la reconnaissance pour elle, ne l'avait menée à Paris que pour la distraire de la tristesse où l'avait jeté l'abandon de l'homme qu'elle avait aimé. Elle avait 27 ans de plus que moi, de sorte que notre liaison ne pouvait l'inquiéter. Il en fut charmé et l'encouragea de toutes ses forces. Je me souviens encore avec émotion des jours et des nuits que nous passâmes ensemble à boire du thé et à causer sur tous les sujets avec une ardeur inépuisable. Cette nouvelle passion m'absorbait pas néanmoins tout mon temps. Il m'en restait malheureusement assez pour faire beaucoup de dettes. Une femme qui de Paris correspondait avec mon père l'avertit de ma conduite, mais lui écrivit en même temps que je pourrais tout réparer si je parvenais à épouser une jeune personne qui était de la société dans laquelle je vivais habituellement et qui devait avoir 90 000 francs de rente. Cette idée séduisit beaucoup mon père, ce qui était fort naturel. Il me la communiqua dans une lettre qui contenait d'ailleurs beaucoup et de très justes reproches et où il finissait par me déclarer qu'il ne consentirait à la prolongation de mon séjour à Paris que si j'essayais de réaliser ce projet avantageux et si je croyais avoir quelque chance de réussir. La personne dont il s'agissait avait 16 ans et était très jolie. Sa mère m'avait reçu depuis mon arrivée avec beaucoup d'amitié. Je me voyais placé entre la nécessité de tenter au moins une chance dont le résultat m'aurait fort convenu, ou celle de quitter une ville où je m'amusais beaucoup pour aller rejoindre mon père qui m'annonçait un grand mécontentement. Oh, je n'hésitais pas à risquer la chose. Je commençais, suivant l'usage, par écrire à la mère pour lui demander la main de sa fille. Elle me répondit fort amicalement, mais par un refus motivé, sur ce que sa fille était déjà promise à un homme qui devait l'épouser dans quelques mois. Cependant, je ne crois point qu'elle considéra elle-même ce refus comme irrévocable, car d'un côté, j'ai su depuis qu'elle avait fait prendre en Suisse des informations sur ma fortune, et de l'autre, elle me donnait toutes les occasions qu'elle pouvait de parler tête à tête avec sa fille. Mais elle me conduisit en vrai fou. Au lieu de profiter de la bienveillance de la mère, qui, tout en me refusant, m'avait témoigné de l'amitié, je voulus commencer un roman avec la fille, et je le commençais de la manière la plus absurde. Oh, je n'essayais point de lui plaire. Je ne lui dis pas même un mot de mon sentiment. Je continuais à causer le plus timidement du monde avec elle quand je la trouvais seule. Mais je lui écrivis une belle lettre comme à une personne que ses parents voulaient marier malgré elle à un homme qu'elle n'aimait pas, et je lui proposais de l'enlever. Sa mère, à qui sans doute elle montra cette étrange lettre, eut pour moi l'indulgence de laisser sa fille me répondre comme si elle ne l'avait pas instruite. Mademoiselle Pourras, elle s'appelait ainsi, m'écrivit que c'était à ses parents à décider de son sort et qu'il ne lui convenait pas de recevoir des lettres d'un homme. Je ne me le tins pas pour dit et je recommençai de plus belle mes propositions d'enlèvement, de délivrance, de protection contre le mariage qu'on voulait la forcer à contracter. On eût dit que j'écrivais à une victime qui avait imploré mon secours et à une personne qui avait pour moi toute la passion que je croyais ressentir pour elle. Et dans le fait, toutes mes épîtres chevaleresques étaient adressées à une petite personne très raisonnable qui ne m'aimait pas du tout, qui n'avait aucune répugnance pour l'homme qu'on lui avait proposé et qu'il m'avait donné ni l'occasion ni le droit de lui écrire de la sorte. Mais j'avais enfilé cette route et, pour le diable, j'en voulais pas sortir. Ce qu'il y avait de plus inexplicable, c'est que lorsque je voyais Mademoiselle Pourras, je ne lui disais pas un mot qui eût du rapport avec mes lettres. Ma mère me laissait toujours seule avec elle, malgré mes extravagantes propositions dont sûrement elle avait connaissance, et c'est ce qui me confirme dans l'idée que j'aurais pu encore réussir. Mais loin de profiter de ces occasions, je devenais, dès que je me trouvais seul avec Mademoiselle Pourras, d'une timidité extrême. Je ne lui parlais que de choses insignifiantes, et je ne faisais pas même une allusion aux lettres que je lui écrivais chaque jour, ni aux sentiments qui me dictaient ces lettres. Enfin, une circonstance dans laquelle je n'étais pour rien amena une crise qui termina tout. Madame Pourras, qui avait été galante toute sa vie, avait encore un amant en titre. Depuis que je lui avais demandé sa fille, elle avait continué à me traiter avec amitié, avait toujours paru ignorer mon absurde correspondance. Et pendant que j'écrivais tous les jours à la fille pour lui proposer de l'enlever, Je prenais la mer pour confidente de mes sentiments et de mon malheur. Le tout, je dois le dire, sans aucune réflexion et sans la moindre mauvaise foi. Mais j'avais enfilé cette route avec l'une et avec l'autre. J'avais donc avec Madame Pourras de longues conversations, tête à tête. Son amant en prit ombrage. Il y eut des scènes violentes et Madame Pourras, qui ayant près de 50 ans, ne voulait pas perdre cet amant qui pouvait être le dernier, résolut de le rassurer. Je ne me doutais de rien, c'était un jour à faire à Madame Pourras mes lamentations habituelles, lorsque Monsieur de Sainte-Croix, c'était le nom de l'amant, parut tout à coup et montra beaucoup d'humeur. Madame Pourras me prit par la main, me mena vers lui, me demanda de lui déclarer solennellement si c'était pas de sa fille que j'étais amoureux, si c'était pas sa fille que j'avais demandé en mariage, et si elle n'était pas tout à fait étrangère à mes assiduités dans sa maison. Elle n'avait vu dans la déclaration exigée de moi qu'un moyen de mettre fin aux ombrages de M. de Sainte-Croix. J'envisageais la chose sous un autre point de vue. Je me vis traîné devant un étranger pour lui avouer que j'étais un amant malheureux, un homme repoussé par la mère et par la fille. Et mon amour-propre blessé me jeta dans un vrai délire. Par hasard, j'avais emporté dans ma poche une petite bouteille d'opium que je trimballais avec moi depuis quelque temps. C'était une suite de ma liaison avec Madame de Charrière, qui, prenant beaucoup d'opium dans sa maladie, m'avait donné l'idée d'en avoir et dont la conversation, toujours abondante, vigoureuse mais très bizarre, me tenait dans une espèce d'ivresse spirituelle qui n'a pas peu contribué à toutes les sottises que j'ai faites à cette époque. Je répétais sans cesse que je voulais me tuer, et à force de le dire, je parvenais presque à le croire, quoique, dans le fond, je n'en eusse pas la moindre envie. Ayant donc mon opium en poche, au moment où je me vis traduit en spectacle devant M. de Sainte-Croix, j'éprouvais une espèce d'embarras, tant il me parut plus facile de me tirer par une scène que par une conversation tranquille. Je prévoyais que M. de Sainte-Croix me ferait des questions, me témoignerait de l'intérêt, et comme je me trouvais humilié, ces questions, cet intérêt, tout ce qui pouvait prolonger la situation m'était insupportable. J'étais sûr qu'en avalant mon opium, je ferais diversion à tout cela. Ensuite, j'avais depuis longtemps dans la tête que de vouloir se tuer pour une femme, c'était un moyen de lui plaire. Oh, cette idée n'est pas exactement vraie. Quand on plaît déjà à une femme et qu'elle ne demande qu'à se rendre, il est bon de la menacer de se tuer parce qu'on lui fournit un prétexte décisif, rapide et honorable. Mais quand on n'est point aimé, ni la menace ni la chose ne produisent aucun effet. Dans toute mon aventure avec Mademoiselle Pourras, il y avait une erreur fondamentale, c'est que je jouais le roman à moi tout seul. Lors donc que Madame Pourras eut fini son interrogatoire, je lui dis que je la remerciais de m'avoir mis dans une situation qui ne me laissait plus qu'un parti à prendre, et je tirai ma petite fiole que je portais à mes lèvres. Je me souviens que dans le court instant qui s'écoula pendant que je fis cette opération, je me faisais un dilemme qui acheva de me décider. « Si j'en meurs, me dis-je, tout sera fini. Et si l'on me sauve, il est impossible que Mademoiselle Pourras ne s'attriste pas pour un homme qui aura voulu se tuer pour elle. » J'avalai donc mon opium. Oh, je ne crois pas qu'il y en eût assez pour me faire grand mal. Et comme M. de Sainte-Croix se jeta sur moi, j'en répandis plus de la moitié par terre. On fut fort effrayé. On me fit prendre des acides pour détruire l'effet de l'opium. Je fis ce qu'on voulut avec une docilité parfaite. Non que j'eusse peur, mais parce que l'on aurait insisté et que j'aurais trouvé ennuyeux de me débattre. Quand je dis que je n'avais pas peur, ce n'est pas que je susse combien il y avait peu de danger. Je ne connaissais point les effets que l'opium produit, et je les croyais beaucoup plus terribles. Mais, d'après mon dilemme, j'étais tout à fait indifférent au résultat. Cependant, ma complaisance à me laisser donner tout ce qui pouvait empêcher l'effet de tout ce que je venais de faire, dut persuader les spectateurs qu'il n'y avait rien de sérieux dans toute cette tragédie. Ce n'est pas la seule fois dans ma vie qu'après une action d'éclat, je me suis soudainement ennuyé de la solennité qui aurait été nécessaire pour la soutenir et que, d'ennui, j'ai défait mon propre ouvrage. Après qu'on m'eut administré tous les remèdes qu'on crut utiles, on me fit un petit sermon d'un air moitié compatissant, moitié doctoral, que j'écoutais d'un air tragique. Mademoiselle Pourras s'entra, car elle n'y était pas pendant que je faisais toutes mes folies pour elle, et j'eus l'inconséquence délicatesse de seconder la mère dans ses efforts pour que la fille ne s'aperçût de rien. Mademoiselle Pourras arriva, toute parée pour aller à l'opéra où l'on donnait le Tarare de Beaumarchais pour la première fois. Madame Pourras me proposa de m'y mener. J'acceptai, et mon empoisonnement finit, pour que tout fût tragicomique dans cette affaire, par une soirée à l'opéra. J'y fus même d'une gaieté folle, soit que l'opium eût produit sur moi cet effet, soit, ce qui me paraît plus probable, que je m'ennuyasse de tout ce qui s'était passé de lugubre et que j'eusse besoin de m'amuser. Le lendemain, Madame Bourras, qui vit la nécessité de mettre un terme à mes extravagances, prit pour prétexte mes lettres à sa fille, dont elle feignit n'avoir été instruite que le jour même, et m'écrivit que j'avais abusé de sa confiance en proposant à sa fille de l'enlever pendant que j'étais reçu chez elle. En conséquence, elle me déclara qu'elle ne me recevrait plus, et pour m'ôter tout espoir et tout moyen de continuer mes tentatives, elle fit venir M. de Charrière, qu'elle pria d'interroger lui-même sa fille sur ses sentiments pour moi. Mademoiselle Pourras répondit très nettement à M. de Charrière que je ne lui avais jamais parlé d'amour, qu'elle avait été fort étonnée de mes lettres, qu'elle n'avait jamais rien fait, ne m'avait jamais rien dit, qui pût m'autoriser à des propositions pareilles, qu'elle ne m'aimait point, qu'elle était très contente du mariage que ses parents projetaient pour elle, et qu'elle se réunissait très librement à sa mère dans ses déterminations à mon égard. M. de Charrière me rendit compte de cette conversation en ajoutant que s'il eût aperçu dans la jeune personne la moindre inclination pour moi, il eût essayé de déterminer la mère en ma faveur. Ainsi se termina l'aventure. Oh, je ne puis dire que j'en éprouvasse une grande peine. Ma tête s'était bien montée de temps à autre. L'irritation de l'obstacle m'avait inspiré une espèce d'acharnement. La crainte d'être obligé de retourner vers mon père m'avait fait persévérer dans une tentative désespérée. Ma mauvaise tête m'avait fait choisir les plus absurdes moyens que ma timidité avait rendus encore plus absurdes. Mais il n'y avait, je crois, jamais eu d'amour au fond de mon cœur. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le lendemain du jour où il fallait renoncer à ce projet, je fus complètement consolé. La personne qui, même pendant que je faisais toutes ces enrageries, occupait véritablement ma tête et mon cœur, c'était Madame de Charrière. au milieu de toute l'agitation de mes lettres romanesques, de mes propositions d'enlèvement, de mes menaces de suicide et de mon empoisonnement théâtral, je passais des heures, des nuits entières à causer avec Madame de Charrière, et pendant ces conversations, j'oubliais mes inquiétudes sur mon père, mes dettes, Mademoiselle Pourras et le monde entier. Je suis convaincu que, sans ces conversations, ma conduite eût été beaucoup moins folle. Toutes les opinions de Madame de Charrière reposaient sur le mépris de toutes les convenances et de tous les usages. Nous nous moquions à qui mieux de tous ceux que nous voyions. Nous nous enivrions de nos plaisanteries et de notre mépris de l'espèce humaine. Et il résultait de tout cela que j'agissais comme j'avais parlé, riant quelquefois comme un fou une demi-heure après de ce que j'avais fait de très bonne foi dans le désespoir une demi-heure avant. La fin de tous mes projets sur Mademoiselle Pourras me réunit plus étroitement encore avec Madame de Charrière. Elle était la seule personne avec qui je causasse en liberté, parce qu'elle était la seule qui ne s'ennuya pas de mes conseils et de représentations sur ma conduite. Des autres femmes de la société où je vivais, les unes s'intéressant à moi par amitié, me prêchaient dès qu'elles en trouvaient l'occasion. Les autres aurais-tu quelque envie, je crois, de se charger de faire l'éducation d'un jeune homme qui paraissait si passionné et me le faisait entendre d'une manière assez claire. Madame Suard avait conçu le dessein de me marier. Elle voulait me faire épouser une jeune fille de 16 ans, assez spirituelle, fort affectée, point jolie et qui devait être riche après la mort d'un oncle âgé. Par parenthèse, au moment où j'écris en 1811, l'oncle vit encore. La jeune personne qui s'est mariée depuis à M. Rasporet, célèbre dans la Révolution par sa niaiserie, a eu quelques aventures, a voulu divorcer pour épouser un homme que j'ai beaucoup connu, dont je parlerai dans la suite et dont elle a eu un enfant, a fait quelques folies pour arriver à ce but, puis, l'ayant manqué, s'est jeté avec beaucoup d'art dans la pruderie et aujourd'hui est une des femmes les plus considérées de Paris. À l'époque où Madame Suard me la proposa, elle avait une envie extrême d'avoir un mari et elle le disait de très bonne foi à tout le monde. Mais ni les projets de Madame Suard, ni les avances de quelques vieilles femmes, ni les sermons de quelques autres, ne produisait d'effet sur moi. Comme mariage, je ne voulais que Mademoiselle Pourras. Comme figure, c'était encore Mademoiselle Pourras que je préférais. Comme esprit, je ne voyais, n'entendais, ne chérissais que Madame de Charrière. Ce n'est pas que je ne profitasse du peu d'heures où nous étions séparés pour faire encore d'autres sottises. Je ne sais qui me présenta chez une fille qui se faisait appeler la comtesse de Lignières. Elle était de Lausanne, où son père était boucher. Un jeune Anglais l'avait enlevée en mettant le feu à la maison où elle demeurait. Elle avait continué, après avoir été quittée par ce premier amant, à faire un métier que sa jolie figure rendait lucratif. Ayant ramassé quelque argent, elle s'était fait épouser par un monsieur de Lignières qui était mort et, devenue veuve et comtesse, elle tenait une maison de jeu. Elle avait bien 45 ans, mais pour ne pas renoncer entièrement à son premier état, elle avait fait venir une jeune sœur d'environ 20 ans, grande, fraîche, bien faite et bête à faire plaisir. Il y venait en homme quelques gens comme il faut et beaucoup d'escrocs. On y tomba sur moi à qui mieux. Je passais la moitié des nuits à y perdre mon argent. Puis j'allais causer avec madame de Charrière, qui ne se couchait qu'à 6 heures du matin, et je dormais la moitié du jour. Je ne sais si ce beau genre de vie parvint aux oreilles de mon père, ou si la seule nouvelle de mon peu de succès auprès de mademoiselle Porras le décida à me faire quitter Paris, mais au moment où je m'y attendais le moins, je vis arriver chez moi monsieur Benet, lieutenant dans ce régiment, chargé de me conduire auprès de lui à Bois-le-Duc. J'avais le sentiment que je méritais beaucoup de reproches, et l'espèce de chaos d'idées où la conversation de madame de Charrière m'avait jeté me rendait d'avance tout ce que je me croyais destiné à entendre insupportable. Je me résignai cependant, et l'idée de ne pas obéir à mon père ne me vint pas. Mais une difficulté de voiture retarda notre départ. Mon père m'avait laissé à Paris une vieille voiture dans laquelle nous étions venus, et dans mes embarras d'argent, j'avais trouvé bon de la vendre. Et monsieur Benet, comptant sur cette voiture, était venu dans un petit cabriolet à une place. Nous essayâmes de trouver une chaise de poste chez le sellier qui m'avait acheté celle de mon père, mais il n'en avait point et ne voulait pas nous en prêter. Cette difficulté nous arrêta tout un jour. Pendant cette journée, ma tête continua à fermenter, et la conversation de madame de Charrière ne contribua pas peu à cette fermentation. Elle ne prévoyait sûrement pas l'effet qu'elle produirait sur moi. Mais en m'entretenant sans cesse de la bêtise de l'espèce humaine, de l'absurdité des préjugés, en partageant mon admiration pour tout ce qui était bizarre, extraordinaire, original, elle finit par m'inspirer une soif véritable de me trouver aussi moi-même hors de la loi commune. Oh, je ne formais pourtant point de projet, mais je ne sais dans quelle idée confuse, j'empruntai à tout hasard à madame de Charrière une trentaine de louis. Le lendemain, monsieur Benet vint délibérer avec moi sur la manière dont nous cheminerions, et nous convînmes que nous suivrions dans des voitures à une place, en nous y arrangeant du mieux que nous y pourrions. Comme il n'avait jamais vu Paris, je lui proposai de ne partir que le soir, et il y consentit facilement. Je n'avais aucun motif bien déterminé dans cette proposition, mais elle retardait d'autant un instant que je craignais. J'avais mes 30 louis dans ma poche, et je sentais une espèce de plaisir à me dire que j'étais encore le maître de faire ce que je voudrais. Nous allâmes dîner au Palais-Royal. Le hasard fit qu'à côté de moi se trouva un homme que j'avais vu quelquefois chez madame de Bourbonne, et avec lequel j'avais causé volontiers parce qu'il avait assez d'esprit. Je me souviens encore de son nom, que la circonstance où je l'ai vu pour la dernière fois. C'était ce jour-là, le 24 juin 1787, gravé dans ma mémoire. Il s'appelait le chevalier de La Roche-Saint-André, grand chimiste, homme à talent, jouant gros jeu et très recherché. Je l'abordai, plaint que j'étais de ma situation, je le pris à part et je lui en parlai à cœur ouvert. Il m'écouta probablement avec assez de distraction, comme je l'aurais fait à sa place. Dans le cours de ma harangue, je lui dis que j'avais quelquefois envie d'en finir en me sauvant. « Et où donc? » me dit-il assez négligemment. « Mais en Angleterre, » répondis-je. « Mais oui, » reprit-il, « c'est un beau pays et on y est bien libre. Tout serait arrangé, » lui dis-je, « quand je reviendrai. »« Bon, sûrement, » répliqua-t-il, « avec le temps, tout s'arrange. » Monsieur Benet s'approcha et je retournai finir avec lui le dîner que j'avais commencé. Même ma conversation avec M. de la Roche-Saint-André avait agi sur moi de deux manières. Premièrement, en me montrant que les autres attacheraient très peu d'importance à une escapade qui jusqu'alors m'avait paru la chose la plus terrible. Deuxièmement, en me faisant penser à l'Angleterre, ce qui donnait une direction à ma course si je m'échappais. Oh, sans doute cela ne faisait pas que j'eusse le moindre motif pour aller en Angleterre plutôt qu'ailleurs, que je pusse y espérer la moindre ressource. Mais enfin, mon imagination était dirigée vers un pays plus que vers un autre. Cependant, je n'éprouvais d'abord qu'une sorte d'impatience de ce que le moment où ma décision était encore en mon pouvoir allait expirer, ou plutôt de ce que ce moment était passé. Car nous devions monter en voiture d'abord après dîner, et il était probable que M. Benet ne me quitterait plus jusque-là. Et comme nous sortions de table, je rencontrai le chevalier de la Roche qui me dit en riant « Ah bien, vous n'êtes pas encore parti ?» Ce mot redoubla mon regret de n'être plus libre de le faire. Nous rentrâmes, nous fîmes nos paquets, la voiture vint, nous y montâmes. Je soupirais en me disant que pour cette fois, tout était décidé, et je pressai avec humeur mes inutiles 30 louis dans ma poche. Nous étions horriblement serrés dans le petit cabriolet à une place. J'étais dans le fond et M. Benet, qui était assez grand et surtout fort gros, était assis sur une petite chaise entre mes jambes, secoué et perdant l'équilibre à chaque chaos pour donner de la tête à droite ou à gauche. Nous avions à peine fait 10 pas qu'il commença à se plaindre. Je renchéris sur ses plaintes parce que l'idée me vint que si nous retournions à la maison, je me retrouvais en liberté de faire de nouveau ce que je voudrais. En effet, nous n'étions pas encore hors de la barrière. Oh, qu'il déclara qu'il était impossible d'y tenir et me demanda de renvoyer au lendemain et de chercher une autre manière de voyager. J'y consentis, je le ramenai à son hôtel et me voilà chez moi à 11 heures du soir, ayant 10 ou 12 heures pour délibérer. Je n'en mis pas autant à me décider à une folie beaucoup plus grave et beaucoup plus coupable qu'aucune de celles que j'avais encore faites. Je ne l'envisageais pas ainsi. J'avais la tête tournée par la crainte de revoir mon père et par tous les sophismes que j'avais répétés et entendu répéter sur l'indépendance. Je me promenais une demi-heure dans ma chambre, puis pendant une chemise et mes 30 louis, je descendis l'escalier, je demandai le cordon, la porte s'ouvrit, je sautai dans la rue. Oh, je ne savais point encore ce que je voulais faire. En général, ce qui m'a le plus aidé dans ma vie à prendre des parties très absurdes, mais qui semblait du moins supposer une grande décision de caractère, c'est précisément l'absence complète de cette décision et le sentiment que j'ai toujours eu que ce que je faisais n'était rien moins qu'irrévocable dans mon esprit. De la sorte, rassuré par mon incertitude même sur les conséquences d'une folie que je ne disais que je ne ferais peut-être pas, j'ai fait un pas après l'autre et la folie s'est trouvée faite. Cette fois, ce fut absolument de cette manière que je me laissais entraîner à ma ridicule évasion. Je réfléchis quelques instants à l'asile que je choisirais pour la nuit, et j'allais demander l'hospitalité à une personne de vertu moyenne que j'avais connue au commencement de l'hiver. Elle me reçut avec toute la tendresse de son état. Mais je lui dis qu'il ne s'agissait point de ses charmes, que j'avais une course de quelques jours à faire à une 50aine de lieues de Paris, et qu'il fallait qu'elle me procurât une chaise de poste à louer pour le lendemain, d'aussi bonne heure qu'elle le pourrait. En attendant, comme j'étais fort troublé, je voulus prendre des forces et j'en demandai au vin de champagne dont quelques verres m'ôtèrent le peu qui me restait de la faculté de réfléchir. Je m'endormis ensuite d'un sommeil assez agité, et quand je me réveillai, je trouvai un sellier qui me livra une chaise à tant par jour, sans prendre d'informations sur ma route, et en se bornant à me faire signer une reconnaissance que je signais d'un nom en l'air, étant bien décidé à lui renvoyer sa voiture de Calais. Mademoiselle m'avait aussi commandé des chevaux de poste. Je la payai convenablement et je me trouvai allant ventre à terre en Angleterre avec 27 louis dans ma poche sans avoir eu le temps de rentrer en moi-même un seul instant. En 22 heures, je fus à Calais. Je chargeai M. Dessein de renvoyer ma chaise à Paris et je m'informai d'un paquebot. Il en partait un à l'heure même. Je n'avais point de passeport, mais dans cet heureux temps, il n'y avait point toutes les difficultés dont chaque démarche a été hérissée, depuis que les Français, en essayant d'être libres, ont rétabli l'esclavage chez eux et chez les autres. Un valet de louage se chargea pour 6 francs de remplir les formalités nécessaires, et 3 quarts d'heure après mon arrivée à Calais, j'étais embarqué. J'arrivai le soir à Douvres, je trouvai un compagnon de voyage qui voulait se rendre à Londres, et le matin du jour suivant, je me trouvai dans cette immense ville, sans un être que j'y connusse, sans un but quelconque et avec 15 louis pour tout bien. Je voulais d'abord aller loger dans une maison où j'avais demeuré quelques jours à mon dernier passage à Londres. J'éprouvais le besoin de voir un visage connu. Oh, il n'y avait pas de place, mais on m'en procura une autre assez près. Mon premier soin, une fois logé, fut d'écrire à mon père. Je lui demandai pardon de mon étrange escapade, que j'excusais du mieux que je pus. Je lui dis que j'avais horriblement souffert à Paris, que j'étais surtout excédé des hommes. Je fis quelques phrases philosophiques sur la fatigue de la société et sur le besoin de la solitude. Je lui demandai la permission de passer 3 mois en Angleterre dans une retraite absolue et je finis par une transition vraiment comique, sans que je m'en aperçusse, par lui parler de mon désir de me marier, de vivre tranquille avec ma femme auprès de lui. Le fait est que je ne savais trop qu'écrire, que j'avais en effet un besoin véritable de me reposer de 6 mois d'agitation morale et physique, et que me trouvant pour la première fois complètement seul et complètement libre, je brûlais de jouir de cette position inconnue à laquelle j'aspirais depuis si longtemps. Je n'avais aucune inquiétude sur l'argent, car de mes 15 louis, j'en employais 2 tout de suite pour acheter 2 chiens et 1 singe. Je ramenais au logis ces belles emplettes. Mais je me brouillai tout de suite avec le singe. Je voulus le battre pour le corriger. Il s'en fâcha tellement que, quoiqu'il fût très petit, je ne pus en rester maître et je le rapportai à la boutique d'animaux où je l'avais pris, où l'on me donna un 3e chien à sa place. Oh, je me dégoûtai pourtant bientôt de cette ménagerie, et je revendis 2 de mes bêtes pour le quart de ce qu'elles avaient coûté. Mon 3e chien s'attacha à moi avec une vraie passion et fut mon compagnon fidèle dans les pérégrinations que j'entrepris bientôt après. Ma vie à Londres, si je fais abstraction de l'inquiétude que me donnait l'ignorance de la disparition de mon père, n'était ni dispendieuse ni désagréable. Je payais 1/2 guinée par semaine pour mon logement, je dépensais environ 3 shillings par jour pour ma nourriture et environ 3 encore pour des dépens accidentelles, de sorte que je voyais dans mes 13 louis de quoi subsister pendant presque un mois. Mais au bout de 2 jours, je conçus le projet de faire le tour de l'Angleterre et je m'occupai des moyens d'y subvenir. Je me rappelai l'adresse du banquier de mon père. Il m'avança 25 louis. Je découvris aussi la demeure d'un jeune homme que j'avais connu et auquel j'avais fait beaucoup d'honnêteté à Lausanne quand je vivais dans la société de Madame Trévor. J'allai le voir. C'était un très beau garçon, le plus entiché de sa figure que j'ai jamais vu. Il passait 3 heures à se faire coiffer, tenant un miroir en main pour diriger lui-même la disposition de chaque cheveu. Du reste, il ne manquait pas d'esprit et avait, en littérature ancienne, assez de connaissances comme presque tous les jeunes Anglais du premier rang. Sa fortune était très considérable et sa naissance distinguée. Il s'appelait Edmund Lascell. Il a été membre assez obscur du Parlement. J'allai donc le voir, il me reçut avec politesse, mais sans paraître avoir conservé le moindre souvenir de notre liaison précédente. Cependant, comme dans le cours de notre conversation, il me fit quelques offres de service, et que j'avais toujours en tête mon voyage dans les provinces de l'Angleterre, je lui proposai de me prêter 50 louis. Il me refusa en s'excusant tant bien que mal sur l'absence de son banquier et sur je ne sais quels autres prétextes. Son valet de chambre, honnête Suisse qui connaissait ma famille, m'écrivit pour m'offrir 40 guinées. Mais sa lettre, remise chez moi pendant une course que je fis hors de Londres, ne me parvint que longtemps après, lorsqu'il avait déjà disposé de son argent d'une autre manière. Il se trouva que, dans la maison à côté de celle que j'habitais, logeait un de mes anciens amis d'Édimbourg, nommé John Mackay, qui avait je ne sais quel emploi assez subalterne à Londres. Oh, nous fûmes enchantés de nous revoir. Je le fus de ne plus être dans une solitude aussi absolue. Et je passai plusieurs heures de la journée avec lui, quoiqu'il ne fût rien moins que d'un esprit distingué. Mais il me retraçait d'agréables souvenirs, et je l'aimais d'ailleurs de notre amitié commune pour l'homme dont j'ai parlé en rendant compte de ma vie à Édimbourg, pour ce John Wilde, si remarquable par ses talents et son caractère, et qui a fini si malheureusement. John Mackay me procura un second plaisir du même genre en me donnant l'adresse d'un de nos camarades que j'avais connu à la même époque. Cela me procura quelques soirées agréables, mais cela n'avançait en rien mes projets. Il en résulta pourtant pour moi un nouveau motif de les exécuter, parce que ces rencontres m'ayant vivement retracé mon séjour en Écosse, j'écrivis à John Wilde et j'en reçus une réponse si pleine d'amitié que je me promis bien de ne pas quitter l'Angleterre sans l'avoir revue. En attendant, je continuai à vivre à Londres, dînant frugalement, allant quelquefois au spectacle et même chez des filles, dépensant ainsi mon argent de voyage, ne faisant rien, m'ennuyant quelquefois, d'autres fois m'inquiétant sur mon père et m'adressant de graves reproches, mais ayant malgré cela un indicible sentiment de bien-être, de mon entière liberté. Un jour, au détour d'une rue, je me trouvai nez à nez avec un autre étudiant d'Édimbourg, devenu docteur en médecine et placé assez avantageusement à Londres. Il se nommait Richard Kentish et s'est fait connaître depuis par quelques ouvrages assez estimés. Nous n'avions pas eu à Édimbourg de liaison fort étroite, mais nous nous étions quelquefois amusés ensemble. Il me témoigna une extrême joie de me retrouver et me mena tout de suite chez sa femme, que je connaissais d'ancienne date parce que, pendant que j'achevais mes études, Il était arrivé avec elle pour l'épouser à Gretna Green, comme cela se pratique quand les parents ne veulent pas consentir à un mariage. L'ayant épousée, il l'avait conduite à Édimbourg pour la présenter à ses anciennes connaissances. C'était une petite femme maigre, sèche, pas jolie, et je crois assez impérieuse. Elle me reçut très bien. Ils partaient le lendemain pour Brighthelm, Sutton, et me pressèrent d'y aller avec eux, en m'y promettant toutes sortes de plaisirs. Ben, c'était précisément la route opposée à celle que je voulais entreprendre. En conséquence, je refusais. Mais je réfléchis 2 jours après qu'il valait autant m'amuser là qu'ailleurs, et je me mis dans une diligence qui m'y conduisit en un jour avec une tortue qui allait se faire manger par le prince de Galles. Arrivé, je m'établis dans une mauvaise petite chambre et j'allai ensuite trouver Kentish, m'attendant sur sa parole à mener la vie la plus gaie du monde. Mais il ne connaissait pas un chat, n'était point reçu dans la bonne société, et employait son temps à soigner quelques malades pour de l'argent, et en observait d'autres dans un hôpital pour son instruction. Tout cela était fort utile, mais ne répondait pas à mes espérances. Je passais pourtant 8 à 10 jours à Brighthelmstone, parce que je n'avais aucune raison d'espérer mieux ailleurs, et que cette première expérience me décourageait, quoique à tort, comme on le verra par la suite, de mes projets sur Édimbourg. Enfin, m'ennuyant chaque jour plus, je partis subitement une après-dînée. Ce qui décida mon départ fut la rencontre d'un homme qui me proposa de faire le voyage à moitié prix jusqu'à Londres. Je laissai un billet d'adieu à Kentish, et nous arrivâmes à Londres à minuit. Oh, j'avais eu bien peur que nous ne fussions volés, car j'avais tout mon argent sur moi et je n'aurais su que devenir. Aussi tenais-je toujours entre mes jambes une petite canne à épée, avec la ferme résolution de me défendre et de me faire tuer plutôt que de donner mon trésor. Mon compagnon de voyage, qui vraisemblablement n'avait point sur lui, comme moi, toute sa fortune, trouvait ma résolution absurde. Enfin, notre route s'acheva sans que j'eusse l'occasion de déployer mon courage. De retour à Londres, je laissai encore plusieurs jours s'écouler sans rien faire. À mon grand étonnement, mon indépendance commençait à me peser. Las d'arpenter les rues de cette grande ville où rien ne m'intéressait, et voyant diminuer mes ressources, je pris enfin des chevaux de poste et j'allai d'abord à Newmarket. Je ne sais ce qui me décida pour cet endroit, à moins que ce ne fût le nom qui me rappelait les courses de chevaux, les paris et le jeu dont j'avais beaucoup entendu parler. Mais ce n'était pas la saison. Il n'y avait pas une âme. J'y passais 2 jours à réfléchir sur ce que je voulais faire. J'écrivis bien tendrement à mon père pour l'assurer que je ne tarderais pas à retourner auprès de lui. Je comptais mon argent que je trouvais réduit à 16 guinées. Puis, après avoir payé mon hôte, je m'esquivais à pied, allant toujours droit devant moi, avec la résolution de me rabattre sur Northampton, près d'où il y avait un monsieur Bridges que j'avais connu à Oxford. Je fis le premier jour 28 miles par une pluie averse. La nuit me surprit dans les bruyères très désertes et très tristes du comté de Norfolk. Je recommençais à craindre que les voleurs ne vinssent mettre un terme à toutes mes entreprises et à tous mes pèlerinages en me dépouillant de toutes mes ressources. J'arrivai pourtant, heureusement, à un petit village nommé Stokes. On me reçut indignement à l'auberge parce qu'on me vit arriver à pied et qu'il y a en Angleterre que les mendiants et la plus mauvaise espèce de voleurs nommés footpads qui cheminent de cette manière. On me donna un mauvais lit dans lequel j'eus beaucoup de peine à obtenir des draps blancs. J'y dormis cependant très bien et à force de me plaindre et de me donner des airs, je parvins le matin à me faire traiter comme un gentleman et à payer en conséquence. Ce n'était que pour l'honneur, car je repartis à pied après avoir déjeuné et j'allai à 14 miles de là dîner à Lynn, petite ville commerçante où je m'arrêtai de nouveau parce que ma manière de voyager commençait à me déplaire. J'avais eu toute la matinée un soleil brûlant sur la tête, et quand j'arrivais, j'étais épuisé de fatigue et de chaleur. Je commençai par avaler une grande jatte de négus qui se trouvait prête à l'auberge. Ensuite, je voulus prendre quelques arrangements pour continuer ma route. Mais je me trouvais tout d'un coup complètement ivre, au point de sentir que je ne savais plus ce que je faisais et que je ne pouvais en rien répondre de moi-même. J'eus pourtant assez de raisons pour être fort effrayé de cet état dans une ville inconnue, tout seul et avec si peu d'argent dans ma poche. Ce m'était une sensation très singulière, que d'être ainsi à la merci du premier venu et privé de tout moyen de répondre, de me défendre et de me diriger. Je fermai ma porte à clé et, m'étant ainsi mis à l'abri des autres, je me couchai à terre pour attendre que les idées me revinssent. Je passai ainsi 5 ou 6 heures et la bizarrerie de la situation, jointe à l'effet du vin, me donna des impressions si vives et si étranges que je me les suis toujours rappelées. Je me voyais à 300 lieues de chez moi, sans bien ni appui quelconque, ignorant si mon père ne m'avait pas désavoué et ne me repousserait pas pour jamais, n'ayant pas de quoi vivre 15 jours et m'étant mis dans cette position sans aucune nécessité, sans aucun but. Mes réflexions dans cet état d'ivresse étaient beaucoup plus sérieuses et plus raisonnables que celles que j'avais faites quand je jouissais de toute ma raison, parce qu'alors j'avais formé des projets et que je me sentais des forces, au lieu que le vin m'avait ôté toute force et que ma tête était trop troublée pour que je puisse m'occuper d'aucun projet. Peu à peu, mes idées revinrent, et je me trouvais assez rétabli dans l'usage de mes facultés pour prendre des informations sur les moyens de continuer ma route plus commodément. Oh, elles ne furent pas satisfaisantes. Je ne possédais pas assez d'argent pour acheter un vieux cheval dont on me demandait 12 louis. Je repris une chaise de poste, adoptant ainsi la méthode la plus chère de voyager précisément parce que je n'avais presque rien, et je fus couché dans un petit bourg appelé Wisbeach. Je rencontrai en chemin un bel équipage qui avait versé. Il y avait un monsieur et une dame. Je leur offris de les conduire dans ma voiture. Ils acceptèrent. Je me réjouis de ce que cette rencontre me faisait passer une soirée moins solitaire. Mais à ma grande surprise, le monsieur et la dame me firent une révérence et s'en allèrent sans dire mot. J'appris le lendemain qu'il y avait une mauvaise troupe de comédiens ambulants qui jouaient dans une grange. Et me trouvant aussi bien là qu'ailleurs, je me décidai à y rester pour aller au spectacle. Oh, je ne sais plus quelle pièce on représentait. Enfin, le jour suivant, je pris encore une chaise de poste et j'allai jusqu'à Thurmston, l'endroit le plus voisin de la cure de Wandlehoo, où je comptais trouver M. Bridges. Je pris un cheval à l'auberge et me rendis tout de suite à Wandlehoo. M. Bridges était effectivement curé de ce village. Mais j'y venais d'en partir et ne devais être de retour que dans 3 semaines. Cette nouvelle dérangeait tous mes plans. Plus de moyens d'avoir l'argent nécessaire pour aller en Écosse. Aucune connaissance dans les environs. À peine de quoi retourner à Londres et y vivre 15 jours. Ce qui n'était pas même assez pour y attendre la réponse de mon père. Il ne fallait pas délibérer longtemps, car chaque dîner, chaque coucher me mettait dans une situation plus embarrassante. Je pris mon parti. Je vis en calculant bien strictement que je pouvais arriver jusqu'à Édimbourg en allant à cheval ou en cabriolet, seul, et une fois là, je comptais sur mes amis. Bel effet de la jeunesse! Car certes, s'il me fallait aujourd'hui faire 100 lieues pour me mettre à la merci des gens qui ne me devaient rien, et sans une nécessité qui excusât cette démarche, s'il fallait m'exposer à m'entendre demander ce que je venais faire et refuser ce dont j'aurais besoin ou envie, rien sur la terre ne pourrait m'y résoudre. Mais dans ma 20e année, rien ne me paraissait plus simple que de dire à mes amis de collège « Ben, je fais 300 lieues pour souper avec vous. Moi, j'arrive sans le sou, invitez-moi, caressez-moi, buvons ensemble, remerciez-moi et prêtez-moi de l'argent pour m'en retourner. » J'étais convaincu que ce langage devait les charmer. Je fis donc venir mon hôte et je lui dis que je voulais profiter de l'absence de mon ami Bridge pour aller à quelques miles de là passer quelques jours et qu'il eût à me procurer un cabriolet. Il m'amena un homme qui en avait un avec un très bon cheval. Malheureusement, le cabriolet était à Stamford, petite ville à 10 miles de là. Il ne fit aucune difficulté pour me le louer. Il me donna son cheval et son fils pour me conduire. Pour retirer le cabriolet des mains du sellier qui avait dû le raccommoder, et nous convînmes que je partirais de Stamford pour aller plus loin. Je me réjouis fort de ce que mon affaire s'était conclue si facilement, et le lendemain je montai sur le cheval. Le fils de l'homme à qui il appartenait monta sur une mauvaise petite rosse que l'hôte de l'auberge lui prêta, et nous arrivâmes très heureusement à Stamford. Mais là, m'attendait une grande mésaventure. Le cabriolet ne se trouva pas raccommodé. J'en cherchais un autre inutilement. Je voulus engager mon jeune conducteur à me laisser partir à cheval. Il s'y refusa. Peut-être aurait-il cédé, mais au premier mot, je me mis dans une colère furieuse et je l'accablai d'injures. Il se moqua de moi, je voulus le prendre par la douceur. Il me dit que je l'avais trop maltraité, remonta sur sa bête et me planta là. Mes embarras augmentaient ainsi à chaque minute. Je couchais à Stamford dans un vrai désespoir.